Alors, je crois que c'était nécessaire de revenir là-dessus, même si ça nous prend un peu de temps. De toute façon, vous avez une invraisemblance énorme au niveau de la théologie. Et je vous montre en quoi c'est en grande partie une projection de la mentalité chrétienne. C'est de considérer que cette identité hébraïque qui va devenir cet Israël, l'interlocuteur de Dieu pour la révélation de la Torah, c'est un Irakien d'origine. Vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair? Bon. Il était Irakien comme nous avons pu être citoyens français. Pas plus. Pas moins, mais pas plus. Un citoyen autre chose, romain, juif. C'est clair? Il était, encore une fois, un hébreu dans la situation d'exil. Si, à l'état civil, Dor Kazim, on lui avait demandé qu'est-ce que tu, il avait dit araméen. Non, araméen, on connaît, c'est une des minorités de la Kazdé. Il avait dit hébreu, alors il dit, percevez un peu cette stratégie de survie qui fait qu'on s'est déguisé en juif pour pouvoir rester hébreu. Le temps est arrivé d'enlever le déguisement et de redevenir hébreu, on a des problèmes. La tunique de Nessus, vous savez ce que c'est? Ça fait corps, finalement. Et alors nous verrons que cette gang araméenne a sa valeur propre. C'est une valeur conservative qui a fait ses preuves. Okay. Mais elle a conservé l'hébreu en lui. Il faut redevenir hébreu. C'est ce qui va arriver à Abraham. Et vous verrez qu'Abraham, relisez ces textes attentivement avec Rashi, avec tous les Midrashim. Vous verrez qu'Abraham met du temps à redevenir l'Abraham hébreu, comme il s'appelle dans le texte. De passer de l'expérience de l'identité juive de son temps, l'araméenne, à l'expérience de l'homme de l'Israël. Ça va réussir finalement que chez son petit-fils. Son petit-fils recevra le nom d'Israël. Alors, a posteriori, et le Midrash exploite beaucoup cela, c'est Jacob qui a sauvé Abraham. A posteriori, Abraham et Israël. Imaginons dans la Médersa, chez les descendants d'Ismaël, comment on parle d'Abraham. C'est notre Abraham. C'est Ibrahim, le père d'Ismaël. C'est pas le nôtre. Vous suivez? C'est a posteriori d'Israël qu'Abraham est le nôtre. Mais s'il n'y avait pas eu Isaac et pas Jacob, on ne fait pas l'histoire à l'envers, mais c'est une hypothèse de travail, s'il n'y avait pas eu Isaac et pas Jacob, jamais la Bible n'aurait parlé d'Abraham, père d'Ismaël. Il n'y aurait pas eu de Bible. C'est clair. Bon, ça va jusque-là?
Non.
Regardez, peut-être là. Il y a beaucoup de commentateurs qui insistent là-dessus, et d'ailleurs Rashi, sur d'autres versets que je vous cite, il revient. On va faire au moins un verset de la paracha aujourd'hui. Regardez, peut-être qu'il a fallu attendre notre temps pour pouvoir diagnostiquer cela. La difficulté d'une alia. On a un problème avec la famille, on a un problème avec la culture d'origine, et on a un problème avec le paysage d'origine. Alors il a dit quitte les trois. Si tu n'as pas quitté les trois, tu es encore attaché à ton passé et de ton projet.
Ça, il les emmène avec lui.
Mais l'essentiel, c'est de ne pas emmener les défauts. Par exemple, comme je dis souvent, et c'est important, le rassemblement des juifs de tous les pays goy d'où ils viennent a un sens messianique. On rassemble l'humanité derrière nous, en délégation. Alors il faut faire attention à ramener les qualités et pas les défauts. On ramène la baguette de pain, le camembert, ça c'est très bien. Mais il faut aussi ramener la politesse française, ça c'est important. On peut manger du camembert russe, mais la politesse française c'est autre chose. Vous comprenez le... Enfin, je dis ça pour les Français. Si la France a existé que pour ça, ça valait la peine. Il y a aussi autre chose, mais c'est leur histoire. Okay. C'est clair, à l'échelle universelle, la contribution de la France à l'avenir messianique de l'humanité passe par ses juifs. Vous comprenez cela? Bien, qu'est-ce que vous dites? Parle plus fort, parce que...
Parce que ce n'est pas les fêtes qui nous disent que le chat est dans l'Israël, et que...
Oui, énormément de textes, pas de la Bible, du Midrash, juste la Bible, mais appuyés sur les versets. D'ailleurs, c'est le premier problème avec duquel s'occupe Rashi dès le début de son commentaire de la Torah. Que chaque fois que Israël, sorti d'exil, réclame sa terre, il a des problèmes avec les occupants. Okay. Alors, c'est à propos de cela que. Alors, je vous cite le verset d'ailleurs, c'est vers Kaftorim et Tim Kaftor. À propos de l'occupation du pays, par Kaftor, c'est la Crète, par les Crétois. Alors c'est là que les Midrashim expliquent que le pays appartenait à la descendance de Shem en s'appuyant sur le verset, je n'ai pas le détail en tête, Il a été occupé par les envahisseurs qui venaient de Crète. Pastorim est une 90. C'est une des tribus des Philistins. Je crois que les dernières données de l'historiographie contemporaine indiquent que ces gens-là qu'on appelle les Philistins, les Cananéens, étaient des Nordiques, des Européens Nordiques. Et que finalement, à travers la civilisation crétoise, ils se sont installés surtout dans les contours de la côte. Ashdod, Haza, Ashdod, Ashkelon, toute cette partie-là qui s'appelle la Philistée dans le vocabulaire biblique. Bon, mais finalement, la civilisation qui s'était installée là, c'est la civilisation hamitique. Alors que cette terre est la terre. Vous voyez, nous avons là un problème très important, et d'ailleurs vos questions l'indiquent. Il y a dans notre identité héréditaire de juifs de l'exil une résistance à ce lien qui semble aller de soi pour la Bible entre le peuple d'Israël et cette terre. Une résistance. Comme si on essaye de se faire la preuve que, après tout, nous sommes des étrangers ici, comme disent nos amis. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Très grave. Il faut bien se regarder en face dans la glace. Non, ça vous en parlez dans votre propre contemporanéité ici, mais avant Ishmael, et avant les prétentions d'Ishmael sur cette terre, les Juifs se prenaient pour les Babyloniens, ils ne sont plus pour les Espagnols, ils ne sont plus pour les Allemands, ils ne sont plus pour les Français. Et avec une espèce d'ambivalence et de tension très difficile, au niveau de l'exil spirituel, on parlait de la Terre Sainte et évidemment Jérusalem. Mais concrètement, dans l'histoire réelle, cette espèce de, pas de redoute, mais c'est plus profond que ça, cette espèce de, ce problème on le retrouvera d'ailleurs, cette espèce de mise en question, est-ce que par hasard, ce serait pas vrai? Vous comprenez le problème? Il y a un mystère de la relation du peuple juif avec les résistants. Un mystère. Une espèce d'ambivalence qu'on n'a jamais rencontrée du tout. Et je me rappelle une phrase d'Edmond Fleck qui nous disait « Dieu n'a jamais promis la terre au peuple, il l'a donnée. Il a promis cette terre à Israël et à l'homme. » La réponse est pourquoi? Parce qu'Israël n'en veut pas. Regardez, si vous faites le bilan démographique des Israéliens par rapport aux Juifs de l'étranger, c'est une proportion inquiétante. Okay. Alors ça veut dire qu'il y a 4/5 du peuple juif qui fait comme si cette terre qui est la sienne n'est pas la sienne. Il préfère une autre terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est cette espèce de choc qu'Abraham s'entendit. Mais je vous ai montré dans le texte que l'initiative est venue de la famille d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'était en fin de compte invivable. On les jetait dans les fournaises. Alors finalement, sorti d'Égypte, de l'Orchestre. Quel?
Est expliqué comme étant un kibouch et non pas un retour. Et il dit, justement parce que le peuple cananéen était...
Non, il faudrait que tu aies le...
Ah, vous savez.
Il faudrait que tu aies le texte comme il est écrit de Nahum. Parce que tu le cites avec cette approche de tout à l'heure que... Enfin, les choses dont j'ai parlé. Okay. Vous voulez que nous fassions le premier rashi, c'est lui qui pose tous les problèmes. Okay. Alors on va faire le premier rashi. Vous allez prendre le premier rashi de la Torah. Et je vais le faire rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça vaut la peine de le faire. Et la semaine prochaine, on fera la prochaine parasha. Mais enfin, c'est pas perdu. Toute la révélation à Moïse. Enfin, toute la révélation à Moïse en Égypte désigne le pays promis aux pères d'Israël. Or, effectivement, les Hébreux en Égypte, la génération des Hébreux qui va venir à l'Égypte d'Israël, sont nés en Égypte. Alors ça a l'apparence de gens venus d'un continent étranger, d'une terre étrangère, venir conquérir dans le sens français du terme une terre qui leur appartient pas. Mais c'est exactement les arguments contemporains des ennemis d'Israël.
Je sais pas si vous avez remarqué ça. Alors on va le voir dans la Chine. La famille, le premier de la Chine. Okay.
Oui. Donc déjà la terre de Sinaï, déjà, il y avait une fois qu'il y avait parmi les peuples, il y avait un français qui ne connaît pas, qui est un habitant, qui devant les gens en train de la terre, qui la ville est interdite, la ville est interdite de la France. Pour
interdit de quoi? Un service de réponse, oui. Regarde, mais tu as raison. Tu as raison. Mais tout se passe comme si ça ne servait à rien. C'est comme pour la ferme de Martelin. Le monde entier sait que s'il y a quelque part des droits d'un peuple sur une terre, c'est Israël et sa terre. Tous les autres, c'est des conquérants partout. La Midrash comme ça, c'est très clair d'ailleurs. Le monde entier le sait, ça ne sert à rien. Alors on va voir comme. Il y a un Maharal qui nous enseigne tout ça. Il y a une ambivalence entre le peuple juif et sa terre. Et le Maharal nous dit très exactement. Si c'était la génération de la sortie d'Égypte, qui elle était l'entrée avec Israël, le lien entre le peuple d'Israël et la terre n'aurait jamais pu être atteint. Mais dans la génération du désert, le peuple d'Israël a dévoilé qu'il avait un problème. Cette tentation de revenir en Égypte, qui les a fait être enterrés dans le désert, et c'est une génération différente qui est entrée avec Israël. La génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée avec Israël, sauf deux exceptions, Caleb et Yoshua. Et la génération qui rentre en Israël n'était pas sortie d'Égypte, elle est née dans le désert. Alors c'est un peu ce temps que nous vivons dans notre histoire. Bon, c'est pas notre sujet. Peut-être, rappelez-moi de traiter une autre fois, si on va reparler en rendez-vous, c'est un sujet très important. Mais il n'y a pas de doute que les Juifs doivent faire un bilan de conscience concernant leur propre sincérité messianique. Je raconte une anecdote que j'ai souvent racontée parce que ça m'a beaucoup frappé. Il y a quelques années, j'étais à Montréal pour enseigner dans la communauté sfarade de Montréal. Ce sont en grande majorité des Marocains, mais il y a des sfarades de tout bassin méditerranéen. On les appelle là-bas les Américains. Et puis, alors, en quelques années, 15 ans à l'époque, 20 ans maintenant, c'est eux les Français du Québec. Un bon. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Alors, on a eu une soirée de clôture, une soirée à la marocaine extraordinaire, et puis très émouvante. Et puis à la fin, on a chanté la Tikva. Moi, j'étais au garde à vous quand même, mais eux, ils étaient plus spectateurs. Et à la fin, ils ont chanté les Shana Abba Birushalayim, ils ne pouvaient pas savoir comment. Alors là, j'ai compris qu'est-ce qu'ils voulaient. Les Shana Abba Birushalayim, en faisant le tour de la planète, du Maroc au Canada, ensuite l'Indonésie, et après on verra. Alors, il y a un problème. Ça se fait dans aucune communauté une histoire de fou pareil. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils étaient sincères et quand ils disaient qu'ils étaient les Français du Québec et quand ils disaient avec des larmes les Chanavas du Rochelaï. Alors qu'il y avait un espèce d'Israélien là qui les regardait comme des préhistoriques. C'était tout à fait sincère. Donc il y a une problématique très difficile, il faut la débroussailler. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez tout? À la tête de Yoshua, vous direz, c'est une histoire de fou. C'est l'histoire de
fou.
Oui, en réalité, c'était là, le premier olé qui a fait la Yorida. Mais, bon, je vous explique à ce moment-là qu'il y a deux dimensions d'identité dans l'identité hébraïque, très importantes ensemble. Celle de l'universel humain, et malheureusement, ça se traduit par les humains. Et celle de la spécificité hébraïque, qui est difficile à récupérer quand on sort d'un temps d'exil. Bon, c'est le thème qu'on aurait l'occasion de cacher, d'étudier. Alors, on va voir en tout cas comment Rachid, avec une préscience extraordinaire, va nous situer ce problème d'emblée. Comme est le premier Rachid de Bereshit. Voilà ce que dit Rachid. Je vais aller très rapidement, il nous faudrait au moins 4 heures pour étudier ça avant de commencer à l'approfondir, mais on va aller un peu en survol. Rachid nous dit ceci, suivez sur le L'Oraya Tsarich Léatrin et Torah, il était nécessaire de commencer la Torah, et là que. Mais à Chodesh la reine Rosh Hashanah, qui est un verset qui se trouve au chapitre 12 de l'Exode, et qui indique la première des mitzvot, le premier des commandements que Israël a reçu en tant que peuple à la sortie d'Égypte. Donc je reprends la lecture, il était nécessaire de commencer les atrilles et tatora, la Torah, et là, mais à Chodesh la reine, que du verset qui dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, la première des commandements au niveau des lois de Pessah à la sortie d'Égypte. Mais c'est déjà un chapitre très avancé dans l'île de l'Exode. J'explique tout de suite avant d'aller plus loin. Si je considère la Torah comme le livre des lois, il n'était nécessaire de commencer le livre des lois que par la première des mitzvot donnée à Israël. Toute cette partie historique aurait pu faire un livre pour lui-même avec les autres livres historiques. C'est un peu comme ça qu'on écrit d'habitude. Il faut quand même un peu approfondir. C'est que l'expression « était nécessaire de commencer » est un peu bizarre. Parce que s'il y a une nécessité de commencer, on commence au commencement. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de nécessité de commencer un livre là où il commence? Est-ce que vous entendez cette difficulté-là? En hébreu, c'est peut-être plus simple. Mais alors, ça rire l'éatri, moi j'ai de ça rire l'éatri, il m'attend à tri, il m'attend à tri. Si tu commences, tu commences. Alors si déjà tu commences au commandement. Et l'idée, pour une fois qu'on a un livre qui commence au commencement, qu'est-ce que vient faire Rachid? Il dit, ça marche pas. C'est pas au commencement qu'il fallait commencer. Pourquoi il était nécessaire de trouver un commencement à la Torah? Parce qu'il était devenu nécessaire de la mettre par écrit. Si déjà il faut la mettre par écrit, alors il n'était nécessaire de commencer que par la première des mitzvot qui historiquement a été dévoilée à Israël. Tout le reste du contenu de l'histoire, ça peut faire un livre pour lui-même. Pourquoi tu commences le livre des lois à l'histoire depuis le commencement? Voilà la question. La dimension plus profonde de la question, c'est aussi deux genres radicalement différents, l'explication de l'histoire et la loi. On est tellement habitué que ce soit dans le même livre, on ne voit pas le problème. C'est pas normal de commencer un code par un livre d'histoire. C'est vrai? Donc, là, il fallait classer les tatouages à la Mahode de Joseph Lachem Rosh Chodashim. Et Rachid explique lui-même, c'est une mitzvah rishona, c'est une mitzvah mitzvah Israël. Puisque c'est la première mitzvah dont Israël a été ordonné, a reçu comme commandement. Encore une fois, la question de Rachid est très facile à comprendre en fin de compte, c'est ceci. S'il y a eu une nécessité seconde, parce qu'on devait mettre ce livre par écrit, de commencer quelque part, il était logique de commencer par le commencement de la révélation des lois à Israël. C'est clair? Et il pose la question de la manière suivante. Continuez. Uma ta'am patar babereshit. Et pour quelle raison il ouvre son récit à Bereshit au commencement? Voilà sa question. C'est clair? Premièrement, il était nécessaire de commencer, si déjà il fallait commencer quelque part, il était nécessaire de commencer qu'à ce verset qui est la première mitzvah. Okay? Et deuxièmement, si déjà il commence pas là où il aurait dû, pourquoi il commence au commencement? Okay? Il donne une réponse qui apparemment n'a aucun lien à sa question. Mishu, quoi, ma'asa, vikida, amo, la tête n'a rien, n'a halak, de l'initi, un verset de psaume, qui est interprété dans le midrash, qui lui sert de source de la manière suivante. Le verset dit ceci. Quoi, ma'asa, vikida, amo, la force de ses actes, il la raconte à son peuple, la tête, la haine, la halak, goïm, pour leur donner l'héritage des nations. Et vous allez voir que la manière dont Rachid, citant le midrash, utilise ce verset, va contre son objectif. Parce que, comment dit le verset? La tête, la haine, la halak, goïm. Il raconte à son peuple, à force de ses actes, par postulant d'admettre, c'est l'œuvre du commencement, Maasé Bereshit. Pourquoi? Pour pouvoir leur donner cette terre qu'il appelle, lui, le verset, l'héritage des nations. Bon, laissez en suspens. Et après, ça continue. Chez Ignombro, Monta Olam, car si les nations du monde disent, l'istimatem, chez Kavashtem, Absor, chez Ragoïm, vous êtes des brigands parce que vous avez conquis les terres des sept peuples qui les occupaient à ce moment-là. Hem, Omrim, la Hem, Israël la répondra, Kolaré, sur la Kazoubo, oui, toute la terre appartient à Dieu, Ubera, lui l'a créée. Et il la donne à Cher Yachar Behena, à qui est droit à ses yeux. Birsono, Natna Lachem, Natana Lachem, c'est par sa volonté qu'il vous l'a donné. Ou Birsono, Natla Mehem, Mehem, Mikem, Mehem. Et c'est par sa volonté qu'il leur a reprise, Untana, la nous, et nous l'a donné à nous. Bon. J'ai consulté une fois les traductions en français de Rashi, il y a une expression que je vous ai corrigée, vous avez dans les traductions les plus autorisées d'ailleurs, il s'agit d'un verset qui se trouve dans le prophète Jérémie, et l'expression « la Asher Yachar Behena » que je vous ai traduit, comme ça se traduit dans le verset de Jérémie, « à qui est droit à ses yeux ?» Yachar, ça veut dire droit. En général, les traducteurs français, même juifs, vous traduisent « à qui bon lui semble ». Et déjà, ça ne marche plus. Et ça veut dire à qui bon lui semble, à qui bon lui semble. C'est-à-dire une espèce d'arbitraire divin, une espèce de diktat, on joue avec ça, un jour c'est toi, un jour c'est l'autre. C'est très grave cette traduction. Il est probable que dans l'ancien français on pouvait dire comme ça, à qui lui semble bon, à qui lui semble être bon. C'est tout à fait autre chose. Mais enfin, finalement, on s'est habitué à qui bon lui semble, et c'est déjà une production de la théologie chrétienne, une projection de la théologie chrétienne, une production. Pourquoi? Parce que comment la théologie chrétienne voit Abraham sans son passé? De façon absolument dictatoriale, Dieu décide de sauver un après ça arrive, ça tombe sur Abraham, la grâce. C'est clair. Alors ça, c'est pourquoi je tenais à vous restituer le passé d'Abraham. C'est pas pour rien qu'Abraham a été choisi. Alors, Dieu sait ce qu'il fait, il ne choisit pas n'importe qui, et c'est pourquoi depuis le premier homme, on nous raconte toute la carte d'identité d'Abraham. Voilà qui a été choisi. C'est clair. Alors ici, c'est très paradoxal. La réponse de Rachi ne répond pas à sa question. Sans compter qu'on ne voit pas très bien en quoi elle pourrait être convaincante pour qui que ce soit. Je reprends les données du problème. La question de Rachid portait sur tout le texte qu'il y a depuis le début de Bereshit jusqu'à la première midiva. Et il répond sur le premier mot. C'est clair ? Qu'est-ce que je fais avec tout le texte qui entre ? S'il s'agissait d'inachmani, d'apprendre que le monde a été créé, d'en tirer un argument théologique pour un problème politique, et ça ne marche pas, alors il suffit les 10 commandements parmi les mitzvot où il y a allusion au fait que Dieu a créé le monde. C'est important de savoir que Dieu a créé le monde. On peut nous enseigner autrement à travers les mitzvot. Pourquoi tout ce texte historique ? Mais surtout, c'est que la réponse de Rachid n'est pas adaptée à sa question. Alors je vous mets prêtez attention au terme envoyé par Rachid. Regardez bien sur le plan. Rachid commence par dire, il était nécessaire de faire débuter la Torah que par le verset de la première mitzvah. Or, en tant que livre des commandements, la Torah, effectivement, débute à la première mitzvah là où elle est. Seulement, il y a une préface. Et la question de Rachid, une préface nécessaire, je reviens là-dessus. Et la question de Rachid est pourquoi cette préface commence à la création du monde. Mataham patah. Il a changé de verbe. Vous voyez ? Je reprends. Même pour les pas hébraïsants, vous entendez en français la différence. Il est nécessaire de débuter la Torah, et ici nous avons comme définition le livre des lois, que par la première loi révélée à Israël. C'est ça qui a eu lieu. La loi de vérité n'a ni commencement ni fin. C'est une vérité d'emblée. Alors si je cherche un ordre de commencement et de suite, le seul ordre nécessaire, c'est l'ordre chronologique de la révélation. Effectivement, c'est comme ça que nous est donné la Torah, dans l'ordre chronologique de la révélation. Alors cette mitzvah est introduite par un verset. Et Dieu s'adressa à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte pour leur dire, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, ce mois sera. C'est la première mitzvah, mais elle a une préface. Il faut que je sache qui c'est ça Moïse, qui c'est ça Aaron. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils font en Égypte? Donc, j'ai besoin d'une préface, ça c'est dit en hébreu p'tiha, du verbe patah. Hein? Il y a une préface au livre de la loi, une préface nécessaire. Il faut que je sache qui est cet Israël à qui cette loi est donnée. Mais la question de Rachi se restreint déjà. Pourquoi cette préface commence au commencement? Ça va? Vous y êtes? C'est bien clair. Donc, la question de Rachi en réalité n'est que sur le premier chapitre, et non pas sur l'ensemble du texte. Alors maintenant, on va raccrocher avec sa réponse. L'objection habituelle qu'on fait à l'apparence de lecture de Rachi, on verra que c'est plus profond que ça, c'est de dire ceci. Si je parle à des goyim qui contestent à Israël ou leur terre, pourquoi j'emploie un argument aussi à qui ils vont détourner, un argument théologique compliqué. Alors on apprend de ce livre que Dieu a créé le monde, donc tout lui appartient, il lui donne à qui est droit à ses yeux. Si déjà je m'adresse à des goïmes convaincus d'un argument pareil, pas c'est écrit dans la Bible, j'ai 1000 versets dans cette Bible à laquelle ils croient et dont ils acceptent l'autorité, où c'est dit en toutes lettres que ce pays est donné aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi je passe par un argument aussi compliqué? Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Bon. Il suffirait aux Juifs, encore Juifs, aux Hébreux, de dire, mais lis ta Bible et tu verras que ce pays, c'est le savent. Hein? Non. Leur argument n'est pas du tout celui-là. Leur argument, c'est, reprenez Rashi, l'istimatem chez Kabashtem. Et là, je rejoins ta question. Vous êtes des brillants parce que vous avez conquis par la force. C'est clair? L'istime, c'est un mot hébreu de rabbinique qui vient du grec, ça veut dire des brillants. Le monde n'a pas changé. On nous traite aujourd'hui de colonial l'istime, d'impérial l'istime, mais c'est le même l'istime. Alors je reviens au problème de la force de Rashi dans sa prophétie. L'argument des goïmes, c'est de dire cette terre, Dieu la donne en héritage, par la grâce. Vous l'avez prise par la conquête. Il ne nie pas qu'elle nous est promise. Ce à quoi il s'oppose, c'est qu'on l'a conquise. Déjà depuis l'origine, c'est clair? C'est la raison pour laquelle, nous dit Rashi, il faut que le récit de la manière dont, à la création du monde, Dieu a donné la terre au premier homme, soit connu de ces gens qui lisent la Bible, pour savoir comment Dieu donne à l'homme la terre qu'il lui promet. Alors prenez le verset 28 du chapitre 1. 28 du chapitre 1. Vous y êtes ? verset 20. Qu'après. Ceci pour arriver. Comment tu t'appelles déjà? Merci. D'accord. Ceci pour arriver à la réponse que je te donnerai, c'est que le fait que la terre ait été conquise, qui bouge, au temps de Josué, de notre temps, et je montrerai comment elle a été conquise, comme au temps de Josué, comme de notre temps, comme dit le verset, n'empêche en rien qu'il s'agit de la terre qui appartient légitimement à ceux qui l'ont reconquise. Tu suis? Alors, prenez le verset 28, il est écrit comme ça. Il s'agit du premier homme et de la terre en général. Le verset 10. Je suis au chapitre 14. Vaibarech Otam Elohim, Vaiomer Lahem Elohim, Ferou Obu, Milou et Taaret Ve. Voilà. Le verset 10, je le dis en français maintenant. Et Dieu les bénit, le premier homme et la première femme. Voilà, j'y suis, il leur dit, croissez, multipliez, comme on traduit, c'est mal traduit, mais c'est pas grave pour le moment. Milou et Taaret Ve. Emplissez la terre et conquérez-la. La terre qu'il promet au premier homme, comment il a lui promet? En lui disant, remplis-la et conquérez. Maintenant, je vous signale que le kibouche n'est pas le kibouche dans le sens français conquête. On conquiert des populations. Pas du tout. Il s'agit de subjuguer la terre, de la rendre apte à donner une récolte. Okay? Tant que les Hébreux, l'Armanie l'a signalé, ça vient du Talmud, tant que les Hébreux n'habitent pas cette terre, elle est inculte. Dès que les Juifs y arrivent, la récolte. C'est ça qui bouche à Aré. Archarat Karka. On conquiert la terre. Et non pas, on subjugue la terre. Il ne s'agit pas du tout de la conquête des occupants. Les occupants, on leur offre, on plante, ils le veulent, ils le veulent pas. C'est déjà le temps de Jésus comme ça. Israël est entré par des chemins mystérieux, infiltré dans le pays. Une fois qu'il était dans le pays, il a proposé la paix aux habitants. Ils n'ont pas voulu aller à la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé de notre temps. Vous suivez? Regardez l'expression anomalique, comme on dit. À leur mal, apparemment, du verset. Emplissez la terre et conquérez-la. S'il s'agissait d'une conquête habituelle, il aurait dû dire conquérez la terre et remplissez-la. Vous voyez? Et je ne sais pas si vous avez remarqué que toutes les guerres d'Israël sont parties du centre à la périphérie, et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. On n'a pas débarqué ici en conquérant, on est rentré chez nous comme on a pu. Il y a eu la guerre, alors on l'a fait du centre vers les non-frontières. Vous avez compris le problème? Alors, c'était pour répondre à ta question. Oui, le fait que les Hébreux sortis d'Égypte, Kapshou, ont conquis la terre qui est la leur, ne change en rien le fait que c'est la leur. Et déjà, nous l'avons à la racine, dans le récit concernant le premier homme, mais surtout dans l'intuition de Rachid, qui a choisi parmi tous les Midrashim des centaines possibles pour expliquer pourquoi ça commence au commencement, cette réponse-là. Parce qu'il savait que nous aurions des problèmes avec le lien à la terre. Ceci met en évidence qu'il y a un problème particulier. Si les nations du monde, ou Moutarlam, disent « Vous êtes des brigands parce que vous avez conquis la terre », ils devraient ajouter que nous savons quelle est la vôtre, c'est bien un problème. Alors le moral a expliqué. La force de cette argumentation contre Israël vient de l'ambivalence de ce peuple vis-à-vis de sa terre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est bien clair? Regardez ce qui se produit là, c'est que... et après je citerai Narmani sur ce rachis. Ce qui se produit là, c'est que il y a une chose extrêmement intéressante, en tout cas importante. Vous avez deux expressions différentes pour dire cette contestation. Si les nations du monde, ou même par Olam, disent vous êtes des brigands parce que vous avez conquis la terre des sept peuples, vous avez deux instances, les nations du monde et les occupants. Alors nous sommes de nouveau dans la même problématique. Il y a une instance des nations du monde qui s'appelle l'ONU, et qui elle a cette argumentation concernant les populations qui occupent le pays. Et tout se passe comme si cette instance, les nations du monde, ne devait apparaître que corollairement à ce problème. On a très souvent remarqué cela. L'ONU ne s'occupe de rien que d'autre que de ce qui se passe ici. Vous avez remarqué ça? Ils ont mille problèmes à résoudre. Rachid. Pour Mota Olam, c'est en hébreu, l'ONU. Pour Mota Olam. C'est et alors, l'argumentation vient de la mentalité théologique des goïmes. Comment Dieu donne ce qu'il promet pour les goïmes par la grâce, sur un plateau, du voilà. Alors que la structure de la Torah, c'est que l'homme doit mériter, conquérir, acquérir ce que Dieu a promis. C'est ça la grande différence. Alors il faut disposer d'un verset pour dire à ceux qui savent lire la Bible, votre argumentation ne tient pas, regardez comment Dieu donne ce qu'il promet. Bon, Nachmanide dit que ça ne sert à rien, on aura beau leur dire ça ne sert à rien. Et il cite le verset suivant, il dit, c'est possible vraiment de dévoiler cela, les secrets du Créateur au Goïm. Il cite un autre verset qui dit, Magid devarav le Yaakov, Chokav mishpatav le Israël. Magid le Amor, Magid. Il explique ses paroles à Jacob et ses lois à Israël, il le rapporte à ce problème de Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je paraphrase, mais le sens est celui de Nachmanide. En fait, compte, on aurait beau disposer de cet argument vis-à-vis des goïms, ça ne change rien. C'est clair? On aurait beau avoir à l'ONU une discussion, même théologique, pour leur dire, écoutez, ouvrez la Bible. Comment Dieu donne sa terre à celui qui promet? Vous qui admettez que cette Bible est importante. Ils sont catholiques, presbytériens, anglicans, tout ce que vous voudrez. Hein? En tout cas, ils savent que ça existe. Et ils le savent très bien. Leur argument, c'est celui de Rachi. Vous êtes des conquérants. C'est pas du tout que ce pays ne vous appartient pas. Il vous appartient, mais attendez, le Messie qui vous le donne, sur le plateau du Golan. C'est clair? Ça, c'est la mentalité des gens. Alors, on aurait pu leur dire, mais vous ne savez pas lire la Bible. Eh bien, ça fait 2000 ans qu'ils ne savent pas lire la Bible. Qu'est-ce que ça va changer? La Nachmanide dit, ne croyez pas que c'est pour les goyim que c'est écrit. C'est pour Israël lui-même, s'il a ce doute. C'est clair? C'est moi qui ai ajouté qu'il a ce doute. Et même, et c'est ce qu'il dit en clair, quand même. Vous avez Nachmanide sous les yeux, et dit, les Hagid, les Barav, les Passar Vadam, Yetcha, et là, et là, ma guide de Barab, les Yaakov, pour cas où je suis pas Israël. Ça veut dire que ce Rachid-là, c'est un service intérieur, un usage interne. C'est les Juifs eux-mêmes qui doivent comprendre ça. Alors, je reviens pour le dire tout à l'heure. Dès l'origine, il y a cette ambivalence. Regardez. Ils sont sortis tous de Okazim, la famille d'Abraham, la famille de Terah. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à Nahor? Il n'a pas supporté, il est mort là-bas. C'est pas Nahor, c'est Haran, il est mort là-bas. C'est ceux qui n'ont pas quitté l'exil, ils sont morts là-bas. Nahor a accompagné le voyage, mais il est mort en présence de son père, parce que son père n'arrivait pas à finir sa alia à Haran. Et puis, c'est Abraham seul, le rescapé des rescapés. Vous avez là une analyse thématique extrêmement claire. Et ça veut dire qu'ils savaient tous que la terre que je te montrerai, le pays de Canaan, rappelez-vous le verset. Et puis voilà, il y a des résistances énormes. Quitter une civilisation comme Okazim, regardez ce qui s'est passé avec l'Europe. Moi j'ai vu que cette époque, il y en a quelques-uns ici sans doute, j'ai vu que c'est l'époque en Europe, l'époque du nazisme. Évident à ce moment-là, le juif qui reste en Europe, c'est qu'il est siphonné. Okay? Eh bien, imaginez les résistances à tenir compte de cela. Et alors vous avez toute une idéologie qu'on s'invente, l'idéologie de Nahor, l'idéologie de Haran, l'idéologie de Lot, etc. Donc il y a un problème dans le thème des relations entre ce peuple et sa terre. Ça commence dès le commencement. Je vous cite toujours, Elie Wiesel. Je ne sais pas s'il répéterait ce qu'il a dit à l'époque, quand il venait à peine de sortir des camps de concentration, il a dit c'est ça. Et on lui posait la question du lien entre la résurrection de l'État d'Israël et la Shoah. Il a dit ceci. Si nous étions vraiment à la hauteur, comment l'humanité nous a fait cadeau d'un petit pays indéfendable qui n'est même pas, rappelez, le pays d'Israël de 47, des projets de l'ONU de 47, que ça, pour ce qui s'est passé, nous devrions mettre l'Europe à feu et à feu. Non, on n'est pas capable, on n'a pas le courage. Oui, je cite Elie Wiesel. Et qu'est-ce que je vous ajoute? Il avait raison, c'est évident. Il avait raison, pas l'Europe à feu et à feu, c'est notre problème. On peut le faire spirituellement, mais on n'a pas le courage. Arrivé au moment de la décision, ça s'effondre. Alors donc c'est qu'il y a un problème.
Un problème.
Écoutez, je vous dis quel est le problème. On attend. Écoutez, je vous dis à deux niveaux. À deux niveaux, parce que les deux argumentations existent et les deux sont défendables. C'est que, premièrement, il y a profondément ancré dans l'inconscient des juifs, et je parle en général, c'est une akhlala, comme on dit, une généralisation, il ne faut jamais faire ça, je vais faire par commodité. le fait qu'on a définitivement repoussé à un temps mythique de l'arrivée d'un Messie mythique, surtout qu'il ne soit pas celui que décrivent nos textes. Cette histoire de l'année prochaine à Jérusalem. On a eu dans l'Antiquité hébraïque une tentative d'avoir une nation à nous, un État à nous, ça a échoué, on est parti pour ça, on sera des Juifs égoïstes. Je vous récapitule 3000 ans d'histoire. C'est très ancien. Et on se cherche tous les alibis possibles et imaginables comme flèche là. En réalité, on ne veut pas. Et pourtant, on ne peut pas ne pas vouloir, c'est notre être. Alors ça prend une dimension mythique l'année prochaine à Jérusalem. Et comme disait la fête Yoshua, on serait sur un satellite autour de la Lune, on essayerait d'avoir une petite synagogue en satellite dirigée sur Jérusalem. Mais on serait là-haut, sur la Lune. Vous comprenez ce que je dis ? Quand on refait cette histoire de la relation des Juifs, de la relation mystique, je changeais de mot, hein, mais mystique, c'est plus sérieux que mythique, mais quand même, des Juifs à Eretz Israël, c'est une histoire de fou. Je vais raconter comment le Rav Kook, j'ai entendu surtout du Rav Aviner, mais vous avez entendu aussi du Rav Kook, vous avez entendu du Rav Aviner. A une fois imagé cela. Vous avez des juifs pieux de la piété de Jérusalem, là où ils sont, et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est des juifs pieux, c'est très pieux Jérusalem, qui demandent de revenir, et qui demandent à Dieu de revenir, et qui reviendrait si d'après eux c'est Dieu qui les ramène. Et alors ils sont persuadés que c'est Dieu qui doit les ramener. Et ils ont raison, dit le Rav. C'est Dieu qui les ramène, mais ils ne voient pas que c'est Dieu qui les ramène. Alors, pour illustrer ça, nous avons donné un exemple. Il y a écrit dans le texte du Kriyat Shema, si tu pratiques les commandements, je donnerai la pluie en ton plein, etc., et l'herbe des champs. Vous connaissez le verset ? Il raconte l'histoire d'un juif qui est allé dans son champ, il s'est assis sur un tabouret, et il a attendu. Un autre juif est passé, il dit, qu'est-ce que tu attends ? Il dit, j'attends la pluie. Il dit, quoi ? Comment tu attends la pluie ? J'attends la pluie pour que l'herbe pousse. Il dit, ça va pas. Il dit, non, c'est ici comme ça. Si tu pratiques les commandements, je t'enverrai la pluie, la poussera. Il dit, j'ai pratiqué les commandements, j'attends que la pluie vienne pour que l'herbe pousse. Alors là, je lui ai dit, et si tu prenais une pioche, une pelle, et tu commences à travailler de telle sorte que c'est comme ça que Dieu te le donne, avec ta pioche et ta pelle. C'est clair ? C'est écrit, vous aurez la pluie en son temps et l'herbe des champs. Et je pense que c'est clair. Quoi. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans la mentalité du juif pieux de Jérusalem à l'étranger. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a raison, c'est Dieu qui doit le ramener. Mais il n'accepte pas de voir ce que Dieu fait comme il le fait. C'est le même problème qui suit. Comment Dieu le fait. Je vais raconter une histoire israélienne qui illustre ça. Comme a raconté ma petite fille quand elle était encore à l'école primaire. C'est un juif qui allait au Kotel tous les jours pendant 3 ans de suite pour prier avec ferveur que Dieu lui donne de gagner la loterie. Et il ne gagnait pas. Alors à la fin, le chef des anges a dit au bon Dieu, le patron est pitié de lui, ça fait 3 ans, on l'a vu. Et Dieu lui a répondu, mais et s'il prenait un billet d'abord? Alors que c'est le même problème. Vous voyez cette histoire. C'est le même problème. Ça veut dire qu'il y a vraiment. Alors ça c'est le premier niveau.
En réalité.
Attendez. Plus que ça. En réalité, il y a un refus de ce lien, une acceptation que s'il est mystique, mythique, un point. C'est ça que je veux dire, le premier livre. Un refus, je voulais dire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir prié, sangloté, supplié pendant 2000 ans, le jour où c'est possible, on pense à autre chose. S'il vous plaît, vous rappelez Montréal. Hein. Et alors, il y a un refus. La génération, la sortie d'Égypte, qui ne va pas rentrer en Égypte. Alors que la sortie d'Égypte, c'est ça, c'est pas béni. Il y a une deuxième dimension, ça va être négatif totalement. Hein. Et vous discutez avec des idéologues de la diaspora, vous desserrez derrière tout ce qu'ils vous diront, un refus pour ça. En cherchant midi à 14h des raisonnements tordus pour essayer de démontrer que blanc c'est noir et noir c'est pas blanc. Et noir c'est blanc même si c'est pas blanc. Enfin, qui fait mis en pleine. Et là, dans aucun pays au monde, ça n'existe. Dans aucun peuple au monde, ça n'existe. Et je suis très aidé à être carré comme ça de ce que j'ai entendu dans le Vétiochou, qui ne cite pas la Bible. Il nous fait une analyse sociologique pure et simple, il dit ce peuple-là est complètement fondé. Et il vous l'explique par tout ça. Sur ce problème, sur d'autres d'ailleurs. Et alors, maintenant, il y a une dimension beaucoup plus profonde, sur laquelle la Béthiochon n'a d'ailleurs pas parlé. C'est que l'identité hébraïque a un indice universel d'emblée qui se dévoilera à la fin des temps, mais qui travaille dans sa conscience. C'est l'attachement aux diasporas. C'est d'autre part, même si c'est inconscient, la tendance à l'universel. Alors vous voyez, c'est une espèce de pendule. on sacrifie à Eretz Israël pour cette tendance à l'universel. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui travaille plus que la relation spécifique de l'identité hébraïque. Okay? Bon, ma critique de cela, c'est que c'est une escroquerie, ce plaidoyer. Pourquoi? Parce que ce soi-disant universel de la diaspora, c'est pas de l'universel, c'est du cosmopolitisme, ça n'a rien à voir. C'est les Juifs qui l'ont emmené, ça, il n'y a pas de doute. C'est un peu vieux, parce que... Et donc, alors de Joshua, mais surtout du courage d'avoir un pays juif. Parce qu'avoir un pays juif, ça engage, et ça engage, et ça engage, on a peur de ça, laissez ça aux goyim, nous on sera la communauté juive des goyim. Ça, c'est un moment très important de la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes en plein dans le sujet, il faut qu'Abraham se dégage de sa gangue d'Abraham, l'araméen. C'est clair? Alors quand il est dans le pays, là, il a ramené ça de Fresdy. Il n'y a pas de doute, n'oubliez pas cela, ce pays est encombré de juifs qui sont encore devenus des Israéliens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et même à la troisième et à la quatrième génération. Je terminerai, c'est clair, je terminerai là-dessus en vous racontant une histoire que j'ai racontée l'année dernière, je suppose, l'année d'avant, qui m'a beaucoup frappé. J'ai un ami, un Israélien né dans le pays, à la troisième génération, un descendant d'un des fondateurs de Petah Tikva. Et un jour, on s'est rencontrés d'ailleurs dans la région là-bas, il était gêné, en colère, je lui dis qu'est-ce qui t'arrive, il me dit, tu te rends compte qu'on est obligé de mettre des serrures sur les portes, parce qu'à l'époque on ne mettait pas de serrures sur les portes. Je dis, Azma, il dit, pourquoi tu mets des serrures sur les portes? Tous les juifs sont arrivés. C'était pas antisémite. Lisez les journaux, vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Alors, votre argument, remettez-le là-dedans. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes des juifs d'origine et nous ramenons avec nous toute cette problématique-là. Il faut s'en dégager. Et ça prend du temps et c'est pas facile. C'est clair? Bon, on pourrait en parler pendant des heures, car l'analyse est très large. Je crois qu'il y a ces deux polarités-là. Il y a le refus plus ou moins inconscient, on a rejeté ça à un temps mythique, et deuxièmement, quelque chose qui est de l'ordre de la valeur positive, la relation à l'universel, seulement on ne l'a pas vécu comme cela, on l'a vécu au niveau d'un cosmopolitisme pur et simple. Et ça, c'est un problème très grave. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 6h30.